Scène 7.
Hier, nous étions quelques-uns réunis à dîner chez l'illustre écrivain. Le sujet de la conversation, vous l'imaginez. On ne parla que de l'affaire Dreyfus. Car comment parler d'autre chose en ce moment? Et quel drame dépasse celui-là en angoisse et en terreur? Il n'y avait là que des gens plus ou moins célèbres et qui font profession de pensée, des intellectuels, comme on dit. Aussi, toutes les sottises, toutes les monstrueuses sottises qui furent récitées, je renonce à les raconter. En quelques minutes d'exaltation patriotique, elles eurent vite atteint à la parfaite, à l'inexprimable beauté où chaque jour nous les voyons s'élever dans la presse. J'ignore quel sera le résultat de cette tragique et obsédante affaire. Il en est un pourtant qui me semble dès maintenant acquis. C'est que le journal n'a plus rien à envier à la loge du concierge. Le journaliste a fait tellement sien le potin stupide, venimeux et délateur qu'il en a à tout jamais découronné la face symbolique, la face spécialiste du concierge, gardien de notre porte et aussi de notre honneur. Il n'a pas fallu moins que le grand cri de conscience poussé par M. Émile Zola. Il n'a pas fallu moins que sa noble et forte parole pour que dans le flot d'imbéciles boue qui nous submerge, nous nous reprenions à ne pas complètement désespérer de l'utilité et de la générosité de notre profession. Or, hier, chez l'illustre écrivain, la conversation, d'abord éparpillée parmi tous les convives qui avaient hâte d'étaler leurs bêtises irréductibles et de vomir sur la table ce qu'ils avaient mangé le matin dans les journaux, se fixa bientôt dans un dialogue entre notre hôte et un jeune poète qui n'avait pas encore dit un seul mot et qui semblait regarder tous ces gens autour de lui avec l'étonnement pitoyable que l'on a devant une assemblée de fous.
« Et vous ?»
dit l'illustre écrivain en s'adressant au jeune poète.
« Vous n'avez encore exprimé aucune opinion. Comme tout le monde, vous devez avoir un sentiment et même une conviction ferme sur ce drame. Voyons, que pensez-vous de Dreyfus ?»«
Je le crois innocent. »
Il y eut des cris, des protestations indignées. Quand ils furent calmés, un essayiste normalien, académicien, fort répandu dans les milieux les plus élégants, demanda, non sans ironie, « Vous avez des tuyaux ?»«
Non, j'ai deux impressions, et elles me suffisent. »«
Des impressions ? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des impressions dans une telle affaire ? Il faut des certitudes. »«
Quoi d'autre que des impressions avez-vous donc, vous, pour le croire coupable ?»«
Une sentence. »«
Une sentence ? Elle a été rendue par des hommes. »«
Non, par des soldats. »«
Ce sont deux fois des hommes. »
Une colère monta au visage de l'illustre écrivain, et il dit
« Allez-vous donc suspecter le jugement d'un conseil de guerre ?»«
Dieu m'en garde, mais les juges peuvent s'être trompés. Qu'il porte une robe rouge ou un dolman, il arrive, hélas, il est arrivé que des juges se soient trompés. »«
C'est antinational ce que vous dites là, c'est monstrueux. Même ici, vous n'avez pas le droit d'exprimer cette opinion. »
Pourquoi n'aurais-je pas le droit d'exprimer ce qui est dans mon esprit et dans mon cœur ?
Parce que la justice est au-dessus de tout.
Ai-je jamais dit le contraire, puisque je pense que la justice est même au-dessus des juges ?
Le silence se fit aussitôt sur cette phrase, prononcée d'une voix triste et profonde. Ce fut l'illustre écrivain qui le rompit le premier.
Enfin, ces deux impressions, dites-les-nous, poète.
Et il mit dans ce mot « poète » tout le mépris qu'un psychologue peut avoir contre un imaginatif et insensible.
« Voici, et pourtant je me rends bien compte que vous allez rire de moi, mais ma conscience est au-dessus de vos rires. »«
Comme la justice est au-dessus des juges, n'est-ce pas ?»«
Si vous voulez. »
Simplement, le poète conta.
« Quelques jours après la dégradation de celui que vous appelez le traître Dreyfus, je passais la soirée dans une maison où se trouvait un personnage qui avait joué un rôle considérable dans cette affaire. C'était, vous le pensez bien, le héros de cette soirée. On l'entourait beaucoup, lui parlait avec complaisance et se grisait peu à peu de son succès. À ce moment-là, j'étais, comme tout le monde, absolument convaincu de la culpabilité du capitaine Dreyfus. Eh bien, à mesure que le personnage parlait, cette conviction, peu à peu, s'ébranlait. Un doute possible naissait, grandissait dans mon âme. Il ne disait pourtant rien qui pût changer cette conviction qui était en moi. Ce qu'il racontait, c'était plutôt, à tout prendre, des banalités, des choses dites, mille fois redites. Mais comment vous décrire cela ? À l'expression de son visage, de sa bouche, de ses yeux, au son de ses paroles qui tintaient faux, cette autre conviction absolue de l'innocence de Dreyfus succédait à celle que, 10 minutes auparavant, j'avais de sa culpabilité. Et quand le personnage eut fini de parler, j'allai dans le salon voisin où, rencontrant une de mes amies, je lui dis ceci passionnément : « Je viens d'apprendre une chose horrible, horrible. Et laquelle, vous êtes tout bouleversé ? Je viens d'apprendre que Dreyfus est innocent. Oh mon Dieu ! Qui vous a dit cela ? Personne. Mais d'où vous vient cette idée ? De rien ? Mais je vous jure qu'il est innocent. Vous êtes fou, mon cher ! » Et mon ami éclata de rire, comme vous.
En effet, les rires firent explosion autour de la table de l'illustre écrivain. Suivant l'expression de l'essayiste normalien, académicien et fort répandu dans les milieux les plus élégants, on se tordit. Joseph lui-même, qui à cet instant précis présentait à son maître d'incomparables truffes au champagne, lui murmura très bas à l'oreille
« Quel dent que ces poètes !»
Mais le jeune poète gardait, au milieu de ses rires, une physionomie calme et sereine. Il n'en sentait ni l'insulte, ni le ridicule. La tempête passée, l'illustre écrivain demanda, avec une politesse ironique,
« Et votre seconde impression ? Ah, mon cher, je vous en prie, ne nous en privez pas !»
Le jeune poète répondit,
« À vrai dire, cette seconde impression n'est pas une impression, c'est quelque chose de plus. C'est une certitude cette fois, une certitude humaine. Bien que rien ne puisse me donner une certitude plus profonde, plus absolue dans son mystère, que l'impression que je viens de vous confier. Ceci donc s'adresse surtout aux âmes rétives à la vérité intérieure, comme les vôtres. »
Personne ne se récria. On se disposa même à une joie nouvelle. Il y avait dans tous les regards l'attente, la curiosité d'une extravagance. Les yeux étaient fixés sur lui comme sur un pitre qui vient d'entrer en scène et de qui on espère des tours, des grimaces que l'on ne connaît pas encore.
« Alors, parlez, nous vous écoutons. »«
Comment voulez-vous qu'un homme comme M. Scheurer-Kestner, un homme de sa grande pureté de vie, de sa valeur morale, de sa situation sociale, un homme de son intelligence, de son héroïsme réfléchi, se soit dévoué à une telle cause s'il n'avait pas non seulement la certitude, mais encore les preuves, vous entendez, de l'innocence de l'un et de l'infamie de l'autre. Que peuvent tous les jugements et toutes les sentences d'un conseil de guerre contre cette impression mystérieuse et révélatrice qui me pousse à crier « il est innocent » et contre l'absolue, l'impeccable sécurité que me donne cette chose sacrée, la conscience d'un honnête homme. »
Cette fois, ce ne furent plus des rires qui couvrirent ces paroles, mais des huées et des hurlements. L'illustre écrivain écumait. Il imposa le silence.
« Et quand même Dreyfus serait innocent. Faudrait qu'il fût coupable quand même, il faudrait qu'il expiât toujours, même le crime d'un autre. C'est une question de vie ou de mort pour la société et pour les admirables institutions qui nous régissent. La société ne peut pas se tromper. Les conseils de guerre ne peuvent pas se tromper. L'innocent de Dreyfus serait la fin de tout. »
Alors le poète se leva et il dit «
Je vous parle justice, et vous me répondez politique. Vous êtes de pauvres petits imbéciles. »
Et il s'en alla.